49. Le temps que vous avez fixé vous-même est écoulé, et je vais vous rejoindre. Vous avez peut-être besoin de moi, et pour le moment, je n'ai rien à faire ici. Dieu veuille qu'à vous aussi je sois utile, mais non pas pour la même raison. J'espère être témoin de votre résurrection. Ici, je n'ai trouvé que la mort. Oui, Lélia, tout est mort sur cette terre maudite. La douleur est entrée cette fois bien avant dans mon cœur. Je frémis, je vous l'avoue, devant le spectacle du monde. J'ai besoin d'y échapper pendant quelque temps et d'aller retremper mon âme dans le sein de la nature. Elle seule ne vieillit pas. Mais les races humaines arrivent en peu de temps à la décrépitude. Et quand l'heure de leur trépas est sonnée, les médecins de l'humanité sont réduits à se croiser les bras et à les voir expirer en silence. Et pourtant, ô mon Dieu, il y a encore des éléments de grandeur, il y a encore des âmes fortes, des jeunesses ardentes et pures. Le phénix est encore prêt à étendre ses ailes sur le bûcher, mais il sait que sa cendre est devenue stérile, que le principe divin va s'éteindre avec lui, et il meurt en jetant un dernier cri d'amour et de détresse sur ce monde qui regarde avec indifférence sa sublime agonie. J'ai vu périr des héros. Les peuples aussi les ont vus, et ils se sont assis comme à un spectacle au lieu de se lever pour les venger. La génération qui a fait un homme puissant au lieu de faire des nations fortes, ne pourra se relever de son abjection. Le faible espoir qui reste est tout entier dans la jeunesse qui s'élève. Des idées de gloire lui ont donné la bravoure. Des idées philosophiques lui ont donné l'esprit d'indépendance. Mais, vous le dirai-je, cette jeunesse m'épouvante, déréglée, bouffie d'orgueil, dépourvue de vénération, elle ne cherche, dans l'œuvre qu'elle veut accomplir, que des émotions guerrières et des triomphes bruyants. Elle méconnaît tout ordre et toute justice dès qu'elle raisonne sur les choses du lendemain. Elle s'approprie l'avenir et y porte déjà toutes les iniquités du passé. Que va-t-elle faire si elle triomphe? Et que va devenir l'humanité si elle succombe? Oh, triste temps! Que celui où la victoire effraie autant que la défaite. En attendant qu'un nouvel effort augmente ou diminue nos forces, je vais vous voir. Puissé-je vous trouver moins résigné que moi? Il n'y a rien de plus triste que cette soumission à une implacable destinée. Hélas, que deviendrait-on alors si on avait la conscience d'avoir fait son devoir. 50. Malédiction. Un jour, Sténio redescendit seul les défilés rapides du Monte Verdor. Sa santé s'était améliorée. Des émotions terribles, de grands chagrins, une blessure assez grave, c'étaient là pourtant les événements qu'il avait retenus éloignés de sa résidence accoutumée. Mais il est des douleurs nobles, des souffrances glorieuses qui fortifient au lieu d'abattre. Et Sténio en avait ressenti l'austère et maternelle influence. Toutefois, Sténio n'était pas guéri. Son âme avait succombé plus que son corps dans le défi insensé qu'il avait voulu porter à la vie. La jeunesse physique refleurit aisément. Mais la jeunesse intellectuelle, plus délicate et plus précieuse, ne recouvre jamais entièrement son parfum et sa grâce. La vertu peut rendre à l'esprit une sorte de virginité, mais lentement et à force de soins et d'expiation. Sténio était brave, il l'avait prouvé, mais son cœur, un instant ranimé, retombait dans une mortelle langueur aussitôt que les émotions du danger ne le soutenaient plus. Le besoin d'amusement frivole et d'excitation factice était devenu si impérieux chez lui que le calme lui était une sorte de supplice. Tandis qu'il traversait seul et d'un pas rapide ces lieux remplis du souvenir poétique de sa passion, il cherchait à échapper à ses propres pensées. Mais, entre les spectacles tragiques dont il venait d'être témoin et la mémoire pénible de ses transports dédaignés, il ne savait où se réfugier. Et la vie que Pulcheri lui avait faite, vide d'émotions profondes et de sentiments vrais, était la seule où il put se reposer. Repos fatal, semblable à celui que le voyageur trouve dans les forêts de l'Amérique, sous l'ombrage enivrant qui donne la mort. Tout à coup, au détour d'un des angles escarpés du chemin, il se trouva face à face avec un homme qu'il prit d'abord pour un spectre. « Que vois-je ? » s'écria-t-il en reculant de surprise et presque de terreur. « Les morts sortent-ils du tombeau ? Les martyrs quittent-ils le ciel pour errer sur la terre ?»« J'ai échappé à la mort, » répondit Valmarina. « Je sais que, grâce au ciel, tu as échappé à la proscription. Mais ma tête est mise à prix, et je ne dois pas m'arrêter un instant près de toi. Tu ne dois pas avoir l'air de me connaître, car si j'étais découvert, les dangers qui m'environnent pourraient t'atteindre aussi. Va, continue ta route, et que le ciel t'accompagne. » « Votre tête est mise à prix, » s'écria Stenio, sans faire attention à la fin du discours de Trenmore. « Et au lieu de quitter cette contrée, vous revenez affronter la persécution dans un lieu où vous êtes connu. Dieu m'assistera aussi longtemps qu'il me jugera propre à accomplir quelque bien sur la terre, » répondit le proscrit. « Ma mission n'est pas remplie. J'ai ici quelqu'un à voir encore avant de m'éloigner tout à fait. Adieu, mon enfant. Puisse la semence de vie fructifier dans ton âme. Éloigne-toi. » Car, bien que ce chemin paraisse peu fréquenté, chaque rocher, chaque buisson peut receler un délateur. Et Trenmore, coupant droit à travers la montagne, voulut quitter le sentier où Stenio devait passer. Mais Stenio s'attacha à ses pas. « Non, je ne vous quitterai pas ainsi, lui dit-il. Vous avez besoin d'aide. Vous êtes accablé de fatigue. Vos blessures sont à peine fermées. Vos joues sont creusées par la souffrance. D'ailleurs, vous êtes sans asile, et je puis vous en offrir un. Venez, venez avec moi. C'est outragé que de me croire capable de prudence et de crainte en un tel moment. » « J'ai un asile tout près d'ici, » répondit Trenmore. « J'ai assez de force pour m'y rendre. Ne crains donc rien pour moi, mon ami, et songe à toi-même. Je n'ai jamais douté de toi. J'ai été te chercher au sein des voluptés où tu étais endormi, et je n'ai pas épargné ton généreux sang lorsqu'il a dû couler pour une cause sainte. Mais ce qui nous en reste est précieux aujourd'hui et ne doit pas être exposé sans nécessité. L'ami qui me cache en ce moment court assez de risques. C'est déjà trop d'un dévouement que je puis rendre funeste. » Malgré les refus et la résistance du proscrit, Stenio s'obstina à l'accompagner jusqu'à la cellule de l'ermite. Cette cellule, creusée dans le granit de la montagne, loin de tout sentier tracé par les hommes, était cachée à tous les regards par l'ombrage épais des cèdres et par un réseau de nopals aux bras rugueux, étroitement enlacés. La cellule était déserte. Située sur l'escarpement du roc, elle surplombait une profondeur dont les abîmes se dérobaient à la vue. L'autre rive de ce précipice présentait un ravin nu et sablonneux, au fond duquel un petit lac dormait dans un morne repos. Même de ce côté, il ne semblait pas possible de descendre sur ses bords, à cause de la mobilité des sables inclinés qui l'entouraient et de l'absence totale de points d'appui. Aucune roche n'avait trouvé moyen de s'arrêter sur cette pente rapide. Aucun arbre n'avait pu enfoncer ses racines dans ce sol friable. En attendant que les avalanches qu'il avait creusées vinssent le combler, ce précipice nourrissait, au sein de ses ondes immobiles, une riche végétation. des lotus gigantesques, des polypiers d'eau douce, longs de 20 brasses, apportaient leurs larges feuilles et leurs fleurs variées à la surface de cette eau que ne sillonnait jamais la rame du pêcheur. Sur leurs tiges entrelacées, sous l'abri de leurs berceaux multipliés, les vipères à la robe d'émeraude, les salamandres à l'œil jaune et doucereux, dormaient, béantes au soleil, sûres de n'être pas tourmentées par les filets et les pièges de l'homme. La surface du lac était si touffue et si verte qu'on l'eût prise d'en haut pour une prairie. Des forêts de roseaux y reflétaient leurs tiges élancées et leurs plumets de velours que le vent courbait comme une moisson des plaines. Stenio, charmé de l'aspect sauvage de ce ravin, voulait essayer d'y descendre et de poser le pied sur ce perfide réseau de feuillage. « Arrêtez, mon fils, lui dit l'ermite, qui parut alors avec son capuchon abaissé sur le visage. Ce lac couvert de fleurs est l'image des plaisirs du monde. Il est environné de séductions, mais il recèle des abîmes sans fond. Hé, qu'en savez-vous, mon père ? Dit Stenio en souriant. Avez-vous sondé cet abîme ? Avez-vous marché sur les flots orageux des passions ? Quand Pierre essaya de suivre Jésus sur les ondes du Génézareth, répondit l'ermite, il sentit, au bout de quelques pas, que la foi lui manquait et qu'il s'était trop hasardé en voulant, comme le Fils de l'homme, marcher sur la tempête. Il s'écria « Seigneur, nous périssons !» Et le Seigneur, l'attirant à lui, le sauva. « Pierre était un mauvais ami et un lâche disciple, » reprit Stenio. « N'est-ce pas lui qui renia son maître dans la crainte de partager son sort ? Ceux qui ont peur du danger et qui s'en retirent ressemblent à Pierre. Ils ne sont ni hommes ni chrétiens. » L'ermite baissa la tête et ne répondit pas. « Mais dites-moi, mon père, pourquoi vous vous donnez la peine de me cacher votre visage ? Je connais fort bien le son de votre voix. Nous nous sommes déjà vus dans les jours meilleurs. « Meilleur, » dit Magnus en laissant tomber lentement son capuchon et en appuyant son front déjà chauve sur sa main desséchée dans une attitude mélancolique. « Oui, meilleur pour vous et pour moi, » dit Stenio, « car à cette époque, les roses de la jeunesse s'épanouissaient sur mon visage et, bien que vous eussiez l'air égaré et le pouls fébrile la dernière fois que je vous rencontrais sur la montagne, « votre barbe était noire, mon père, et vos cheveux touffus. Vous attachez donc un grand prix à cette vaine et funeste jeunesse du corps, à cette dévorante énergie du sang qui colore le visage et qui brûle le crâne, » dit le moine chagrin. « Vous en voulez à la jeunesse, mon père, » dit Stenio. « Vous avez pourtant quelques années seulement de plus que moi. Eh bien, je gagerai qu'il y a encore plus de jeunesse dans votre imagination qu'il y en a maintenant dans tout mon être. » Le prêtre pâlit. Puis il posa sa main jaune et calleuse sur la main pâle et bleuâtre de Stenio. « Mon enfant, lui dit-il, vous avez donc été malheureux aussi, puisque vous êtes si cruel. La souffrance qu'on a subie, dit Trenemore d'un ton sévère et triste, devrait rendre compatissant et bon. C'est le fait des âmes faibles de se corrompre dans l'adversité. Les âmes fortes s'y épurent. « Eh, ne le sais-je pas bien, » dit Stenio, que la rencontre inattendue de Magnus ramenait au souvenir amer de son amour repoussé. « Ne sais-je pas que je suis une âme sans grandeur et sans énergie ? Une nature infirme et misérable. En serais-je où j'en suis, si j'étais Trenemore ou Magnus ? « Mais, hélas, » ajouta-t-il en s'asseyant avec un mouvement de sombre colère sur le bord de l'abîme, « pourquoi tenter sur moi de vains efforts ? Pourquoi me donner des conseils dont je ne puis profiter et des exemples qui sont au-dessus de mes forces ? Quel plaisir trouvez-vous à m'étaler vos richesses, à me montrer de quelle puissance vous êtes doué, de quels efforts vous êtes capable ? Homme fort, homme héroïque, vase d'élection, saint qui êtes sorti d'un galérien et d'un prêtre, vous, forçat, qui avez assumé sur votre tête tous les châtiments de la vie sociale, vous, moine, qui avez résumé dans quelques années de votre vie intérieure toutes les tortures de l'âme, vous deux, qui avez souffert tout ce que les hommes peuvent souffrir, la satiété et la privation, l'un brisé par les coups, l'autre par le jeûne, vous voici pourtant debout et le front levé vers le ciel, tandis que moi, je rampe comme l'enfant prodigue au milieu des animaux immondes, c'est-à-dire des appétits grossiers et des vices impurs. Eh bien, laissez-moi mourir dans ma fange et ne venez pas tourmenter mon agonie par le spectacle de votre ascension glorieuse vers les cieux. C'est ainsi que les amis de Job venaient vanter leur prospérité à la victime étendue sur le fumier. Laissez-moi, laissez-moi. Gardez bien vos trésors de peur que votre orgueil ne les dépense. Que la sagesse et l'humilité veillent à la garde de vos conquêtes. Préservez-vous du désir puéril de les montrer à ceux qui n'ont rien. Car, dans sa colère, le pauvre haineux et jaloux pourrait cracher sur ses richesses et les ternir. Traînemort, votre gloire n'est peut-être pas aussi réelle, aussi éclatante que vous l'imaginez. Ma raison amère pourrait peut-être trouver une explication triviale au triomphe de la volonté sur des passions amorties, sur des désirs effacés ou repus. Magnus, prenez garde. Votre foi n'est peut-être pas si affermie que je ne puisse l'ébranler d'un regard moqueur ou d'un doute audacieux. La victoire remportée par l'esprit sur les tentations de la chair n'est peut-être pas si complète que je ne puisse vous faire rougir et pâlir encore en prononçant un nom de femme. Allez, allez prier, allumez l'encens devant l'autel de la Vierge et baissez la tête sur le pavé de vos églises. Allez composer des traités sur la mortification et la résignation, mais laissez-moi jouir des derniers jours qui me restent. Dieu, qui ne m'a pas, comme vous, favorisé d'une organisation supérieure, n'a mis à ma portée que des réalités communes, que des plaisirs vulgaires. J'en veux user jusqu'au bout. N'ai-je pas, moi aussi, fait un pas immense dans le chemin de la raison depuis que nous nous sommes quittés? En voyant que je ne pouvais atteindre au ciel, ne me suis-je pas mis à marcher sur la terre sans humeur et sans dédain? N'ai-je pas accepté la vie telle qu'elle m'était destinée? Et lorsque j'ai senti, au-dedans de moi, une ardeur inquiète et rebelle, des ambitions vagues et fantasques, des désirs irréalisables, n'ai-je pas tout fait pour les éteindre et les dompter? J'ai pris un autre moyen que vous, mes frères, voilà tout. Je me suis calmé par l'abus, tandis que vous vous êtes guéris par le cilice et l'abstinence. Il fallait, à d'aussi grandes âmes que les vôtres, ces moyens violents, ces expiations austères. L'usage des choses humaines n'eût pas suffi à rompre vos caractères d'airain, à épuiser vos forces surnaturelles. Mais toutes ces choses étaient à la taille de Sthénio. Il s'y est livré sans rougir, il s'en est assouvi sans ingratitude. Et maintenant, si son corps s'est trouvé trop faible pour ses appétits, si la phthisie s'est emparée de ce chétif enfant du plaisir, c'est que Dieu ne l'avait pas destiné à compter de longs jours sur la terre. C'est qu'il n'était propre à faire ni un soldat, ni un prêtre, ni un joueur, ni un savant, ni un poète. Il y a des plantes réservées à mourir aussitôt après avoir fleuri, des hommes que Dieu ne condamne pas à un long exil parmi les autres hommes. Voyez, mon père, vous voici chauve, comme moi. Vos mains sont desséchées, votre poitrine redressée, vos genoux débiles, votre respiration courte. Voici votre barbe qui grisonne, et vous n'avez pas 30 ans. Votre agonie sera peut-être un peu plus lente que la mienne. Peut-être me survivrez-vous toute une année. Eh bien, n'avons-nous pas réussi tous deux à vaincre nos passions, à refroidir nos sens? Nous voici sortis du creuset, épurés et réduits, n'est-ce pas, mon père? Je suis plus amoindri que vous encore. C'est que l'épreuve a été plus forte et plus sûre. C'est que je touche au but. C'est que j'ai fini de terrasser l'ennemi. Peut-être eussiez-vous aussi bien fait de prendre les mêmes moyens que moi. C'était les plus courts, mais n'importe. Vous n'en arriverez pas moins à la souffrance et à la mort. Donnons-nous la main. Nous sommes frères. Vous étiez grand, j'étais misérable. Vous étiez une nature vigoureuse, moi une nature pauvre. Mais les tombes qui bientôt vont s'ouvrir pour nous n'en hériteront pas moins l'une et l'autre d'un peu de poussière. Magnus, qui pendant les paroles de Sthenio s'était troublé plusieurs fois et avait levé les yeux vers le ciel avec une expression d'effroi et de détresse, prit en cet instant une attitude plus calme et plus assurée. « Jeune homme, dit-il, nous ne finirons pas avec cette chétive enveloppe, et notre âme ne sera pas donnée en pâture au ver du tombeau. Pensez-vous que Dieu tienne un compte égal entre nous ? N'y aura-t-il pas au jour du jugement des miséricordes plus grandes pour celui qui aura mortifié sa chair et prié dans les larmes, une justice plus sévère pour celui qui aura plié le genou devant les idoles et bu aux sources empoisonnées du péché ? Qu'en savez-vous, mon père, dit Sthenio ? Tout ce qui est contraire aux lois de la nature est peut-être abominable devant le Seigneur. Quelques-uns ont osé le dire dans ce siècle d'examen philosophique, et je suis de cela. Mais je vous épargnerai ces lieux communs. Je me bornerai à vous faire une question. La voici. Si demain, au lever du jour, après vous être endormi dans les larmes et la prière, vous veniez à vous réveiller dans les bras d'une femme, apportée à votre chevet par la malice des esprits des ténèbres. Après la surprise, la frayeur, la lutte, la victoire, l'exorcisme, tout ce que vous éprouveriez et feriez, je n'en doute pas. Dites-moi, iriez-vous bien dire la messe un instant après et toucher le corps du Christ sans la moindre terreur ? Avec la grâce de Dieu, répondit Magnus, peut-être mes mains seraient-elles restées assez pures pour toucher l'hostie sainte. Néanmoins, je ne voudrais pas l'oser sans m'être auparavant purifié par la pénitence. Fort bien, mon père, vous voyez bien que vous êtes moins purifié que moi, car je pourrais à présent dormir toute une nuit à côté de la plus belle femme du monde sans éprouver autre chose pour elle que du dégoût et de l'aversion. En vérité, vous avez perdu votre temps à jeûner et à prier. Vous n'avez rien fait, puisque la chair peut encore épouvanter l'esprit, et que le vieil homme peut encore troubler la conscience de l'homme nouveau. Vous avez bien réussi à creuser votre estomac, à irriter votre cerveau, à déranger la combinaison harmonieuse de vos organes, mais vous n'avez pas réduit, comme moi, votre corps à un rôle passif. Vous n'en êtes pas venu au point de subir l'épreuve dont je parle et d'aller immédiatement communier sans confession. Vous n'avez obtenu pour résultat qu'un lent suicide physique, c'est-à-dire une action que votre religion condamne comme un crime affreux. Et vous êtes sous l'empire des mauvais désirs, comme au premier jour de votre pénitence. Dieu ne vous a pas bien secondé, mon père. L'ermite se leva et, se redressant de toute la hauteur de sa grande taille affaissée, il regarda le ciel encore une fois. Puis, posant ses deux mains sur son front, dans une affreuse anxiété, il s'écria « Serait-il vrai, ô mon Dieu ? M'aurais-tu refusé les secours et le pardon ? M'aurais-tu abandonné à l'esprit du mal ? Te serais-tu retiré de moi, sans vouloir prêter l'oreille à mes sanglots ? À mes cris suppliants, aurais-je souffert en vain et toute cette vie de combat et de torture serait-elle perdue ? Non, s'écria-t-il encore avec enthousiasme, en élevant ses longs bras grêles hors de ses manches de bure. Je ne le croirai pas. Je ne me laisserai pas décourager par les paroles impies de cet enfant du siècle. J'irai jusqu'au bout. J'accomplirai mon sacrifice. Et si l'Église a menti, si les prophètes ont été inspirés par l'esprit des ténèbres, si la parole divine a été détournée de son vrai sens, si mon zèle a été plus loin que ton exigence, du moins tu me tiendras compte du désir opiniâtre, de la volonté féroce qui m'a séparé de la terre pour me faire conquérir le ciel. Tu liras au fond de mon cœur cette passion ardente qui me dévorait pour toi, mon Dieu, et qui parle si haut dans une âme dévorée d'autres passions terribles. Tu me pardonneras d'avoir manqué de lumière et de sapience. Tu ne pèseras que mes sacrifices et mes intentions. Et si j'ai porté cette croix jusqu'à ma mort, tu me donneras ma part dans la mansuétude de ton éternel repos. Est-ce que le repos est dans le système de l'univers, dit Sténio? Espérez-vous être assez grand pour mériter que Dieu crée pour vous seul un univers nouveau? Croyez-vous qu'il y ait aux cieux des anges oisifs et des vertus inertes? Savez-vous que toutes les puissances sont actives et qu'à moins d'être Dieu, vous n'arriverez jamais à l'existence immuable et infinie? Oui, Dieu vous bénira, Magnus, et les saints chanteront vos louanges là-haut sur des harpes d'or. Mais quand vous aurez apporté, vierge et intacte, au pied du maître, l'âme d'élite qu'il vous a confiée ici-bas, quand vous lui direz « Seigneur, vous m'aviez donné la force, je l'ai conservée, la voici, je vous la rends, donnez-moi la paix éternelle pour récompense. » Dieu répondra à cette âme prosternée « C'est bien, ma fille, entre dans ma gloire et prends place dans mes phalanges étincelantes. Tu accompliras désormais de nobles travaux. Tu conduiras le char de la lune dans les plaines de l'éther. Tu rouleras la foudre dans les nuées. Tu enchaîneras le cours des fleuves. Tu monteras la tempête. Tu la feras bondir sous toi comme une cavale hennissante. Tu commanderas aux étoiles. Substance divine, tu seras dans les éléments. Tu auras commerce avec les âmes des hommes. Tu accompliras, entre moi et tes anciens frères, des missions sublimes. Tu rempliras la terre et les cieux. Tu verras ma face et tu converseras avec moi. Cela est beau, Magnus, et la poésie trouve son compte à ces sublimes aberrations. Mais quand il en serait ainsi, je n'en voudrais pas. Je ne suis pas assez grand pour être ambitieux, pas assez fort pour vouloir un rôle, soit ici, soit là-haut. Il convient à votre orgueil gigantesque de soupirer après les gloires d'une autre vie. Moi, je ne voudrais pas même d'un trône élevé sur toutes les nations de la terre. Si je doutais de la bonté divine au point d'espérer autre chose que le néant pour lequel je suis fait, je lui demanderai d'être l'herbe des champs que le pied foule et qui ne rougit pas, le marbre que le ciseau façonne et qui ne saigne pas, l'arbre que le vent fatigue et qui ne le sent pas. Je lui demanderai la plus inerte, la plus obscure, la plus facile des existences. Je le trouverai trop exigeant encore s'il me condamnait à revivre dans la substance gélatineuse d'un mollusque. C'est pourquoi je ne travaille pas à mériter le ciel. Je n'en veux pas. J'en crains les joies, les concerts, les extases, les triomphes. Je crains tout ce dont je puis concevoir l'idée. Comment désirerais-je autre chose que d'en finir avec tout? Eh bien, je suis plus content que vous, mon père. Je m'en vais sans inquiétude et sans effroi vers l'éternelle nuit. Tandis que vous approchez, éperdu, tremblant, du tribunal suprême où le bail de vos souffrances et de vos fatigues va se renouveler pour l'éternité. Je ne suis pas jaloux. J'admire votre destinée, mais je préfère la mienne. Magnus, effrayé des choses qu'il entendait, et ne se sentant point la force d'y répondre, se pencha vers Trenmore, et de ses deux mains serrant avec force la main de l'homme sage, ses yeux, pleins d'anxiété, semblèrent lui demander l'appui de sa force. « Ne vous troublez point, non, mon frère, reprit Trenmore, et que les souffrances de cette âme blessée n'altèrent point la confiance de la vôtre. Ne vous lassez point de travailler, et que la tentation du néant s'émousse comme une caresse menteuse. Vous auriez plus de peine à devenir incrédule qu'à garder le trésor de la foi. Ne l'écoutez point, car il se ment à lui-même et craint les choses qu'il affirme, bien loin de les désirer. Et toi, Sthénio, tu travailles vainement à éteindre en toi le flambeau sacré de l'intelligence. Sa flamme se ranime plus vive et plus belle à chacun de tes efforts pour l'étouffer. Tu aspires au ciel, malgré toi, et ton âme de poète ne peut chasser le souvenir douloureux de sa patrie. Quand Dieu, la rappelant de l'exil, l'aura purifiée de ses souillures et guérie de ses maux, elle se prosternera avec amour et le remerciera d'avoir fait luire pour elle son éternelle lumière. Elle regardera derrière elle s'effacer comme un nuage ce rêve effrayant et sombre de la vie humaine et s'étonnera d'avoir traversé ces ténèbres sans songer à Dieu, sans espérer le réveil. « Où étais-tu donc, ô mon Dieu ? » dira-t-elle. « Et que suis-je devenu dans ce tourbillon rapide qui m'a entraîné un instant ?» Mais Dieu la consolera et la soumettra peut-être à d'autres épreuves, car elle les redemandera avec instance. Heureuse et fière d'avoir retrouvé la volonté, elle voudra en faire usage. Elle sentira que l'activité est l'élément d'effort. Elle s'étonnera d'avoir abdiqué sa couronne d'étoiles. Elle demandera son rôle parmi les dominations célestes et le reprendra avec éclat. Car Dieu est bon et n'envoie peut-être les rudes épreuves du désespoir qu'à ses élus pour leur rendre plus précieux ensuite l'emploi de sa puissance. Va, la plus divine faculté de l'âme, le désir, n'est qu'endormie en toi, Sthénio. Laisse reprendre à ton corps quelque vigueur, donne à ton sang quelques jours de repos, et tu sentiras se réveiller cette ardeur sainte du cœur, cette aspiration infinie de l'intelligence qui font qu'un homme est un homme et qu'il est digne de commander aux choses ici-bas, aux éléments là-haut. Un homme est un homme, dit Sthénio, tant qu'il peut gouverner son cheval et résister à sa maîtresse. Quel plus bel emploi de la force, voyez-vous, que le ciel ait départi à d'aussi chétives créatures que nous. Si l'homme est susceptible d'une certaine grandeur morale, elle consiste à ne rien croire, à ne rien craindre. Celui qui s'agenouille à toute heure devant le courroux d'un dieu vengeur n'est qu'un esclave servile qui craint les châtiments d'une autre vie. Celui qui se fait une idole de je ne sais quelle chimère de volonté, devant laquelle s'éteignent tous ses appétits, se brisent tous ses caprices, n'est qu'un poltron qui craint d'être entraîné par ses fantaisies et de trouver la souffrance dans ses plaisirs. L'homme fort ne craint ni Dieu, ni les hommes, ni lui-même. Il accepte toutes les conséquences de ses penchants, bon ou mauvais. Le mépris du vulgaire, la méfiance des sots, le blâme des rigoristes, la fatigue, la misère n'ont pas plus d'empire sur son âme que la fièvre et les dettes. Le vin l'exalte et ne l'enivre pas. Les femmes l'amusent et ne le gouvernent pas. La gloire le chatouille au talon quelquefois, mais il la traite comme les autres prostituées et la met à la porte après l'avoir étreinte et possédée, car il méprise tout ce que les autres craignent ou vénèrent. Il peut traverser la flamme sans y laisser ses ailes comme un phalène aveugle et sans tomber en cendres devant le flambeau de la raison. Éphémère et chétif comme lui, il se laisse comme lui emporter à toutes les brises, allécher à toutes les fleurs, réjouir par toutes les lumières. Mais l'incrédulité le préserve de tout. Le vent de l'inconstance l'entraîne et le sauve. Aujourd'hui, des vains météores, illusion menteuse de la nuit, demain de l'éclatant soleil, triste délateur de toutes les misères, de toutes les laideurs humaines. L'homme fort ne prend aucune sûreté pour son avenir et ne recule devant aucun des dangers du présent. Il sait que toutes ses espérances sont enregistrées dans un livre dont le vent se charge de tourner les feuillets, que tous les projets de la sagesse sont écrits sur le sable, et qu'il n'y a au monde qu'une vertu, qu'une sagesse, qu'une force, c'est d'attendre le flot et de rester ferme tandis qu'il vous inonde. C'est de nager quand il vous entraîne. C'est de croiser ses bras et de mourir avec insouciance quand il vous submerge. L'homme fort, selon moi, est donc aussi l'homme sage, car il simplifie le système de ses joies. Il les resserre, il les dépouille de leur entourage d'erreurs, de vanités, de préjugés. Sa jouissance est toute positive, toute réelle, toute personnelle. C'est sa divinité naïve et belle, cynique et chaste. Il la met toute nue et foule aux pieds les vains ornements qui la lui dérobaient. Mais plus fidèle et plus sincère que les hypocrites docteurs de son temple, à toutes les heures de sa vie, il plie le genou devant elle au mépris des vains anathèmes d'un monde stupide. Il est martyr de sa foi. Il vit et souffre pour elle. Il meurt pour elle et par elle, en niant ou en bravant cet autre dieu absurde et méchant que vous adorez. L'homme qui tire son épée pour combattre la tempête est impie et téméraire, mais il est plus courageux et plus grand que le dieu qui remue la foudre. Moi, je l'oserais, et vous, Magnus, vous ne l'oseriez pas. Traîne-mort qui nous entend, traîne-mort qui est, ne vous y trompez pas, mon père. Plus philosophe que chrétien, plus stoïque que religieux, et qui estime la force plus que la foi, la persévérance plus que le repentir. Traîne-mort en un mot, qui peut et qui doit s'estimer plus que vous, mon père. Peut-être juge entre nous et voir lequel de nous deux a le mieux défendu et conservé la plus haute de ses facultés, l'énergie. Je ne serai pas juge entre vous, dit Traîne-mort. Le ciel vous a départi des qualités diverses, mais chacun de vous reçut une belle part. Magnus fut doué d'une plus grande persistance dans les idées. Et si vous voulez faire abstraction des vôtres, Sténio, pour contempler sérieusement le beau spectacle d'une volonté victorieuse, vous serez frappé d'admiration à la vue de ce moine qui fut impie, amoureux et fou, et qui est ici maintenant calme, fervent et soumis à la rigueur des habitudes cénobitiques. Où a-t-il pris la force de résister si longtemps à ces luttes épouvantables et de se relever après avoir été maudit et brisé? Est-ce le même homme que vous avez entendu nier Dieu au chevet de l'Elia mourante? Est-ce le même que vous avez vu courir égaré sur la montagne? C'est un homme nouveau, et pourtant c'est la même âme orageuse, ardente, les mêmes sens fougueux, terribles, toujours neuve et toujours vierge, le même désir toujours intense, mais jamais assouvi, s'égarant malgré lui à la poursuite des choses humaines, mais revenant toujours à Dieu par la réaction d'une inconcevable vigueur et d'un foyer d'espérance sublime. Oh, mon père, il est vrai que nous n'avons pas le même culte et que nous invoquons Dieu dans des rites différents. Vous n'en êtes pas moins à mes yeux trois fois saint, trois fois grand, car vous avez combattu, vous vous êtes relevé de dessous le pied de votre ennemi, et vous combattez encore, vaillant, infatigable, sillonné de blessures, épuisé de sueur et de sang, mais décidé à mourir les armes à la main. Continuez au nom de Jésus, au nom de Socrate. Les martyrs de toutes les religions, les héros de tous les temps vous regardent, et du haut des cieux applaudissent à vos efforts. Mais toi, Sténio, enfant qui naquit avec une étoile au front, toi dont la beauté faisait concevoir la forme des anges, toi dont la voix était plus mélodieuse que les voix de la nuit qui soupirent sur les harpes éoliennes, toi dont le génie promettait au monde une jeunesse nouvelle, toute d'amour et de poésie, car les chanteurs et les poètes sont des prophètes envoyés aux hommes pour ranimer leurs esprits énervés, pour rafraîchir leurs fronts brûlants. Toi, Sténio, qui, dans tes jeunes années, marchais revêtu de grâce et de pureté comme d'une robe sans tache et d'une auréole lumineuse. Je ne saurais m'effrayer de tes destins. Je ne puis pas désespérer de ton avenir. Comme Magnus, tu subis la grande épreuve, la terrible agonie réservée aux puissants. Mais dès cette vie, tu t'en relèveras comme lui. Tu luttes encore, et tout saignant de la torture, tu méconnais la main qui t'essaie. Mais bientôt nous te verrons, étoile obscurcie, briller plus blanche et plus belle à la voûte des cieux. Et que faudra-t-il faire pour cela, traîne mort ? Demanda Sémio. Il faudra te reposer seulement, répondit Traînemort, car la nature est bonne à ce qui te ressemble. Il faudra laisser à tes nerfs le temps de se calmer, à ton cerveau le loisir de recevoir des impressions nouvelles. Éteindre ses désirs par la fatigue, ce peut être une bonne chose, mais exciter ses désirs éteints, les gourmander comme des chevaux fourbus, s'imposer la souffrance au lieu de l'accepter, chercher au-delà de ses forces des joies plus intenses, des plaisirs plus aiguisés que la réalité ne le permet, remuer dans une heure les sensations d'une vie entière, c'est le moyen de perdre le passé et l'avenir, l'un par le mépris de ses timides jouissances, l'autre par l'impossibilité d'y surpasser le présent.